Merci d'écouter RFI. Midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour à toutes et à tous. On a demandé aux principaux concernés ce qu'ils pensaient du plan de Donald Trump pour Gaza. Une prise de contrôle du territoire par les États-Unis et un déplacement des Palestiniens. Hors de question, répondent les Gazaouis. Réaction en chaîne après ces déclarations du président américain. Selon Paris, ces propos sont dangereux pour la stabilité et le processus de paix. Propos dénoncés aussi par l'Allemagne, la Turquie ou encore la Chine.
RFI.
Suivre aussi les civils en première ligne dans les récents affrontements à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon OCHA, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, le dernier bilan est de 3000 tués. Serge Atlaoui, de retour en France, 19 ans après son arrestation en Indonésie pour trafic de drogue. Il a échappé à la peine capitale, mais il n'est pas libre pour autant. Il a été incarcéré. Et puis, il était à la fois chef spirituel, milliardaire, philanthrope et passionné aussi par les chevaux. L'Aga Khan est décédé, il avait 88 ans. Gaza, future Côte d'Azur du Moyen-Orient sous le contrôle des États-Unis. Ce n'est pas une idée en l'air, selon Donald Trump.
Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous y ferons du bon travail. Nous développerons l'économie et nous fournirons un nombre illimité d'emplois et de logements aux habitants de la région. On ne peut pas revenir en arrière. Si vous revenez en arrière, ça va finir de la même façon, comme depuis 100 ans.
Voilà à propos du président américain tenu après un échange avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en visite à Washington et qui stupéfie les Palestiniens. Hors de question de partir, répondent les Gazaouis, interrogés ce matin par Rami Al-Megari avec Samy Bourlifa à Jérusalem.
Le plan de Trump est voué à l'échec, tranche Hajj Mohamed. La famine ne nous a pas fait quitter Gaza. Ce n'est pas Trump qui nous fera partir, c'est notre pays, poursuit le vieil homme. Une position qui fait l'unanimité chez les Gazaouis, explique le jeune Mohamed. Mon message pour Trump et pour tous ceux qui convoitent Gaza, c'est notre terre. On vit ici et on meurt ici. Malgré toutes les bombes qui se sont abattues sur nous et toutes les destructions, nous avons choisi de rester ici. Le plan du président américain prévoit le transfert des Gazaouis vers la Jordanie ou l'Égypte voisine. Aza est palestino-égyptienne. Elle vit à Gaza depuis son enfance. Donald Trump peut garder ses idées brillantes pour lui, ironise la jeune femme. Mon père est égyptien et ma mère palestinienne. Mais je suis très attachée à la Palestine. Je ne partirai jamais. J'aime Gaza. Et contrairement aux autres Gazaouis, moi, je pourrais m'installer en Égypte par choix. Mais je refuse qu'on subisse un déplacement forcé. Plus de 2 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. Les chassés de force constitueraient un nettoyage ethnique et donc un crime de guerre. Rami Al-Merali, Gaza, Samy Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Le Hamas a immédiatement dénoncé un plan raciste et accuse Donald Trump de jeter de l'huile sur le feu. L'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, elle rejette tous les plans visant à déplacer les Palestiniens hors de leur patrie.
En Israël, en revanche, cette idée de déplacement des populations de Gaza est portée par l'extrême droite.
Elle n'est pas nouvelle, cette idée, comme d'ailleurs celle de transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient, cette expression au choc de Donald Trump. Il y a un an, son beau-fils et ancien haut conseiller, Jared Kushner, avait déjà fait le même genre de proposition, Pierre-Olivier.
Je suis assis à Miami Beach en ce moment et quand je vois la situation là-bas, je me dis, si j'y étais, qu'est-ce que je ferais?
La scène se déroule le 15 février 2024. Jared Kushner intervient pour l'université d'Harvard. Cela fait 5 mois que l'offensive israélienne à Gaza a commencé, tuant près de 30 000 personnes. Mais au détour d'une question, l'homme de 43 ans, ancien magnat de l'immobilier, fait cette suggestion.
Le front de mer de Gaza pourrait avoir une grande valeur si seulement les gens se concentraient sur le développement économique. Vous imaginez les sommes dépensées dans les tunnels, les munitions. Si cet argent avait été investi dans l'éducation ou la rénovation, tout ce qui aurait pu être fait.
Presque un an avant la proposition de son beau-père Donald Trump de contrôler Gaza, Jared Kushner, juif orthodoxe, paradoxe, avait aussi fait part de quelques idées concernant la population.
La situation là-bas est un peu fâcheuse, mais si j'étais Israël, je ferais de mon mieux pour déplacer les habitants dans le Negev, par exemple, et nettoyer. Je ne pense pas qu'Israël serait contre leur retour ensuite.
L'absence totale de compassion et d'empathie du mari d'Ivanka Trump avait provoqué un tollé dans une partie de l'opinion, alors loin de se douter que son beau-père reprendrait dans les grandes lignes ces mêmes propositions.
Des propositions qui provoquent des réactions internationales en chaîne. Elles se multiplient ces dernières heures. Là, l'ONU vient de qualifier ce projet de Donald Trump pour Gaza de très surprenant. Je cite, la Turquie a dénoncé un projet inacceptable. Pour Berlin, Gaza appartient aux Palestiniens. Condamnation aussi de Paris tout à l'heure. Sophie Prima est porte-parole du gouvernement français.
Je veux réitérer ici le fait que la France est opposée pleinement au déplacement des populations. C'est un sujet de déséquilibre dans le Moyen-Orient, évidemment, qui est contraire à la solution à deux États que nous prônons depuis des années. Je rajouterais que les déclarations sont probablement dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix qui est enclenché. Nous avons encore des otages. Nous avons possible déstabilisation de ce territoire qui est à feu et à sang depuis trop d'années. Et par conséquent, nous en tenons à notre politique qui est pas de déplacement des populations, la recherche d'un cessez-le-feu temporaire vers un processus de paix et une solution à deux États.
Voilà la porte-parole du gouvernement français, propos recueillis par Valérie Gass. J'ajoute cette réaction également de la Chine via le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La Chine qui dit s'opposer au déplacement forcé des Gazaouis. Pékin qui dénonce aussi une mesure déraisonnable après l'annonce de la poste américaine. Elle ne va plus accepter les colis en provenance de Chine. Nouvelle étape de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Dans leur très bref communiqué, les services postaux américains ne donnent pas de raison. Ils indiquent simplement qu'il s'agit d'une mesure temporaire et qui pourrait donc bloquer l'entrée aux États-Unis de petits colis via les applications de commerce à bas prix très populaires comme Temu ou Shein. Brique par brique, le minaret de Mossoul en Irak, vieux de plus de 850 ans, a été reconstitué à l'identique sur le site de l'emblématique mosquée Al-Nouri. L'identité de Mossoul est de retour, c'est ce qu'a dit la directrice générale de l'UNESCO en visite sur place. Audrey Azoulay a salué la fin prochaine des travaux de restauration après les destructions du groupe djihadiste État islamique qui avait fait de cette ville de Mossoul leur bastion.
Le dernier bilan, encore provisoire, des affrontements à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo.
Après les combats entre l'armée congolaise appuyée par ses alliés et le groupe du M23 soutenu par l'armée rwandaise, OCHA, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, fait état désormais de 3000 morts, essentiellement des civils. Bounena Sidi Mohamed est directeur adjoint d'OCHA en RDC, basé à Goma. Il appelle à la réouverture rapide de l'aéroport et des routes aussi, il y a urgence.
Malheureusement, les civils ont payé les prix les plus élevés de cette crise. Les affrontements ont eu lieu dans les zones densément peuplées. Des centaines de morts et des blessés dans la population civile. Avec l'utilisation d'armes lourdes dans Goma, les conséquences ont été dramatiques. Nos priorités sont la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre l'arrivée des fournitures médicales et l'évacuation des blessés et éventuellement aussi l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous appelons aussi à la facilitation de l'accès aux axes routiers entre Goma et le reste de la RDC. Tous ces éléments compliquent bien sûr l'acheminement de l'aide aujourd'hui à Goma. Le système sanitaire est saturé, les hôpitaux sont débordés. Les besoins en sang sont urgents. Les autorités sanitaires souhaitent aussi acheminer 600 poches de sang vers Goma pour traiter les blessés. Et il y a une pénurie des médicaments et il y a un risque élevé des épidémies, que ce soit le choléra, rougeole ou un pox. Nous appelons tous les acteurs humanitaires, les autorités et la communauté internationale à agir de toute urgence. Sans ces accès, les opérations humanitaires resteront fortement limitées, mettant des milliers de vies en danger.
Voilà l'appel de Bounena Sidi Mohamed d'Ocha à Goma, propos recueillis par Guillaume Thibault. Les drapeaux en berne en Suède après la fusillade qui a fait 10 morts hier dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro, c'est dans le centre centre du pays. Le Premier ministre suédois l'a reconnu. Beaucoup de questions sont encore sans réponse, notamment sur le profil, les motivations du tueur. L'homme s'est très probablement suicidé après avoir ouvert le feu, selon la police. La Russie se montre plus que sceptique sur des négociations directes avec l'Ukraine. C'est une option avancée hier par le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour mettre fin au conflit. Déclaration vide de sens, a réagi le porte-parole du Kremlin tout à l'heure. Sur le front, l'armée russe a revendiqué la prise de deux nouveaux villages dans l'est et le nord-est de l'Ukraine.
Le retour au pays de Serge Atslaoui, ce Français condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue.
Ce qu'il a toujours démenti, Serge Atslaoui est aujourd'hui âgé de 61 ans. Il a atterri ce matin à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, accompagné de policiers. Un accord entre Paris et Jakarta a permis son transfert, mais ça ne veut pas dire qu'il est libre, loue et cale. Qu'est-ce qui se passe pour lui maintenant?
Eh bien, Serge Atslaoui a été présenté à un magistrat du parquet et il vient d'être emmené à la prison d'Ony dans le Val-de-Loise. Maintenant, les semaines à venir, elles vont être décisives pour Serge Atslaoui. La justice française va devoir modifier et adapter sa peine au droit français. En Indonésie, pour rappel, il a été condamné à mort, une peine inapplicable en France. Son avocat, de son côté, envisage une remise en liberté d'ici peu. Pour Serge Atslaoui, ce retour en France, c'est évidemment un soulagement. L'homme de 61 ans, qui souffre par ailleurs d'un cancer, échappe pour de bon à la peine capitale. Et puis, c'est surtout l'espoir de retrouver enfin ses proches après 19 ans d'absence.
Lou et Cal, pas de gros risques pour François Bayrou cet après-midi à l'Assemblée. Le Premier ministre qui a engagé la responsabilité du gouvernement sur le budget 2025. Il fera face à deux motions de censure, mais le PS, les socialistes, ne les voteront pas. Le Rassemblement national non plus. Son patron Jordan Bardella l'avait déjà dit hier.
Il était un chef spirituel, milliardaire, philanthrope. L'Aga Khan est décédé à Lisbonne, il avait 88 ans.
L'imam des Ismaéliens Nizarites, c'est une branche de l'islam chiite qui compte entre 12 et 15 millions de fidèles. Il occupait cette fonction depuis 1957, vous le disiez, responsable religieux et homme d'affaires. Et il a également beaucoup investi, Lila Olkinwora, investi une grande partie de sa fortune dans l'aide au développement.
Oui, le prince Karim Aga Khan IV, chef spirituel du deuxième groupe musulman chiite au monde, dit avoir passé sa vie à défendre l'islam comme une religion de paix et pas de désordre social. Il regrettait son instrumentalisation dans des situations essentiellement politiques. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Un symbole de tolérance pour le secrétaire général de l'ONU, son incroyable travail pour l'éducation, la santé et le développement est aussi salué par la Nobel de la paix, Malala Yousafzai. L'Aga Khan était à la tête d'une gigantesque organisation à but non lucratif, l'Aga Khan Development Network, 96 000 employés et un budget annuel $1 milliard dédié aux activités de développement, de lutte contre la pauvreté, d'éducation et de santé en Afrique et en Asie. On peut citer la création d'un parc de 30 hectares au Caire à la place d'un ancien dépotoir, la construction d'un barrage en Ouganda, mais aussi le financement de l'hôpital français à Kaboul qui soigne et opère gratuitement les familles afghanes sans ressources. Son successeur sera annoncé à Lisbonne, ville où Karim Aga Khan IV avait installé le siège du culte musulman ismaélien. Dans les années 60, le Portugal avait été l'un des premiers pays à reconnaître la charge et la fonction de l'Aga Khan.
Lila Olkinwora, dans l'actualité économique, le plongeon de l'action Nissan à la bourse de Tokyo, le constructeur automobile japonais en difficulté. Selon des infos de presse, sa fusion envisagée avec son concurrent nippon Honda n'est plus à l'ordre du jour, mais aucune décision n'a été prise concernant la fin des négociations. C'est ce qu'annonce un porte-parole.
La superstar américaine Angelina Jolie est Maria Callas.
Le biopic sur la diva de l'opéra à l'affiche dès aujourd'hui en France, sobrement intitulé Maria, film du réalisateur Pablo Larraín. Ce n'est pas sur toute la vie de la chanteuse, mais sur son crépuscule en quelque sorte, la semaine précédant son décès à Paris. C'était le 16 septembre 1977, à seulement 53 ans, Elisabeth Le Carré.
À l'automne 77, Maria Callas n'est plus que l'ombre d'elle-même et c'est cette ombre qui fascine Pablo Larraín. Rongée par la dépression, dépendante des drogues, la diva vit recluse dans un immense appartement parisien où tout n'est que luxe, calme et solitude.
Let's go.
Portée par l'interprétation impeccable d'Angelina Jolie, la mise en scène au cordeau épouse l'obsession de Larraín pour les beautés dépressives. Au jeu du biopic, le cinéaste chilien est passé maître. Après Jackie Kennedy et Lady Di, la Callas est le troisième papillon qu'il épingle dans son bestiaire. Angelina Jolie, qui a pris des cours pour le rôle, peut chanter sans craindre le ridicule, puisqu'elle incarne une cantatrice ayant perdu sa voix.
My life is opera.
À la dévastation de l'héroïne, le film oppose, non sans cruauté, les archives de sa splendeur passée, où elle incarna la Traviata ou encore Norma. Le récit épouse cette descente aux enfers. Avec lui, on se prend à jouir de ce spectacle, morbide autant que fascinant, ébloui par les derniers feux de cet astre mort.
Voilà la voix de la Callas qui, elle, reste immortelle.
Merci Charlotte Sidrac. 13h15 à Paris. On va parler de l'actualité sportive maintenant. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Du football en Espagne pour commencer avec les quarts de finale de la Coupe du Roi. Et un Real Madrid mal en point qui se rend ce soir à Leganés.
La Maison Blanche a des allures d'hôpital avec une pléthore de blessés seront ainsi forfaits ce soir. Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Plus grave, les absences des défenseurs David Alaba et Antonio Rüdiger récemment touchés. Un secteur défensif déjà privé depuis un moment de Dani Carvajal et d'Eder Militao. Vraiment pas une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti.
Malheureusement, au cours des deux derniers jours, nous avons perdu deux joueurs très importants pour nous. On ne s'y attendait évidemment pas, car Alaba était rétabli, prêt à jouer ce match. Il se sentait bien. Cette nouvelle blessure aux ischio-jambiers tombe très mal. Cela pourrait l'éloigner des terrains encore quelques semaines. Ensuite, on ne s'attendait pas non plus à la blessure de Rüdiger. C'est une situation d'urgence et nous devons nous accrocher. Kylian Mbappé, lui, a recommencé l'entraînement ce mardi. On lui avait donné une journée de récupération supplémentaire lundi. Il a un hématome au mollet, il s'est entraîné normalement, mais il ne sera pas disponible pour le match de Leganés.
Carlo Ancelotti qui pourrait aligner en défense centrale les Français Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. Le Real Madrid en déplacement donc ce soir sur le terrain de Leganés, 16e de la Liga, avant d'affronter l'Atlético Madrid samedi en championnat, puis Manchester City mardi en barrage de la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid qui de son côté s'est hissé hier en demi-finale de cette Coupe du Roi en écrasant Getafe 5-0. Et puis en Angleterre, on suivra ce soir la demi-finale retour de la Coupe de la Ligue entre Newcastle et Arsenal. Les Gunners battus 2-0 chez eux à l'aller.
La Coupe de France également à l'honneur aujourd'hui avec la suite des huitièmes de finale.
Avec un duel 100% Ligue 1 ce soir entre Strasbourg et Angers. Toulouse de son côté recevra Guingamp, pensionnaire de Ligue 2, pendant que Nice jouera chez le Stade Briochin qui évolue en 4e division. À suivre encore le duel entre les amateurs de l'AS Cannes et ceux de Dives Cabourg. Hier, Dunkerque a créé l'exploit d'aller éliminer Lille au stade Pierre-Mauroy. Une victoire au tir au but pour le 4e de Ligue 2 face au 8e de finaliste de la Ligue des Champions. Également qualifié, Brest vainqueur à 3, 2 buts à 1. Et le Paris Saint-Germain qui est allé battre tranquillement le Mans 2-0.
L'Institut du sport français fêtait ses champions hier soir.
Quelques mois après les Jeux de Paris, les médaillés tricolores issus de l'INSEP étaient mises à l'honneur. Pour certains, la joie olympique ne les a pas quittés. Exemple avec les archers Thomas Chirot, vainqueur de l'argent par équipe, et sa compagne Lisa Barbelin, qui peu après avait décroché le bronze en solo, devenant ainsi la première médaillée olympique française de tir à l'arc en individuel. Deux médailles en famille pour un double bonheur, Lisa Barbelin.
On n'avait pas mis d'objectif dessus. C'était chacun faisait sa performance et on verrait ensuite. Mais le hasard, je dirais pas ça, mais en tout cas, tout est arrivé pile au bon moment et c'était merveilleux que ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, on partage une vie de médaillée olympique à deux et c'est extraordinaire. J'ai encore beaucoup d'images qui me reviennent et j'espère qu'elles ne partiront jamais, ces images, parce que c'est un grand moment de ma carrière, un moment charnière et qui va beaucoup m'aider, je pense, pour le reste. Ça, c'est certain. Mais il y a encore un peu le flow de la médaille, même si ça s'atténue quand même beaucoup. Mais le nouveau projet, c'était d'acheter une maison et c'est chose faite. Donc, c'est extraordinaire. Et maintenant, bien sûr, on retourne un peu au charbon pour préparer 2028.
L'archère Lisa Barbelin, 24 ans, répondait à Solène Ravenel.
L'actualité sportive. Merci, Eric Mamrut. Tout de suite, on va retrouver notre invité.
RFI. Le Monde à midi.
Pour revenir sur les déclarations d'hier de Donald Trump concernant Gaza, on n'ose même pas dire déclaration choc, ça ne semble pas donner vraiment la mesure de ce que propose le président américain. Évacuer les Palestiniens de Gaza, placer le territoire sous contrôle américain pour que les États-Unis y développent l'économie et y construisent des bâtiments touristiques. Donald Trump veut faire des lieux la Riviera du Moyen-Orient. Pour en parler, nous recevons Xavier Guignard, chercheur associé au Centre Noria Research et au Middle East Council, co-auteur du livre « Comprendre la Palestine » publié aux éditions Les Arènes. Xavier Guignard est au micro de Nicolas Falaise.
Bonjour Xavier Guignard.
Bonjour.
Une situation de propriété sur le long terme, c'est ce que Donald Trump envisage pour la bande de Gaza. Ces déclarations du président américain surprennent. Est-ce qu'elles s'inscrivent dans une vision déjà évoquée par le président des États-Unis ?
On dirait une déclinaison apocalyptique de ce qu'il avait déjà prévu dans ses accords, son deal du siècle, présenté en 2020-2021. La même idée de transformer Gaza aujourd'hui en la Monaco du Moyen-Orient, hier la Singapour du Moyen-Orient, revient, cette fois sans ses habitants, et au profit, pour le citer, des habitants du monde entier, mais pas des Palestiniens qui sont invités à quitter la bande de Gaza, pour ne pas dire être déportés, et ne pas y revenir.
Il y a quelques jours déjà, Donald Trump avait évoqué l'idée du déplacement d'une grande partie des habitants palestiniens de la bande de Gaza, idée qui avait déjà provoqué un tollé à ce moment-là.
Oui, c'est suite à la visite de son envoyé spécial Witkoff sur place, lui aussi un grand magnat de l'immobilier, qui disait que devant l'ampleur des dégâts et devant la présence d'environ 30 000 bombes non explosées dans la bande de Gaza, il fallait, pour la reconstruction, vider la bande de Gaza de 75% de ses habitants. Là, hier soir, Trump parlait de 100% de ses habitants pour permettre la reconstruction et la transformation de Gaza en un projet immobilier complètement fou.
Les premières voix qui s'élèvent pour dénoncer cette vision, ce sont les Palestiniens et les pays arabes de la région, y compris les alliés des États-Unis dans la région.
Oui, les Palestiniens ont immédiatement dénoncé cette prise de position américaine. L'Égypte et la Jordanie, qui sont de nouveau cités pour accueillir malgré eux les Palestiniens en situation opposée. Et puis cette nuit à 4h du matin, le prince héritier d'Arabie Saoudite a publié un communiqué rappelant son attachement à la solution à deux États. C'est important non pas parce que c'est la position saoudienne, mais parce que dans l'idée de Trump, ce déplacement et cette relocalisation forcée des Palestiniens sera financée par le Golfe.
On comprend déjà que Donald Trump ne trouvera pas de soutien d'alliés pour participer à cette vision pour la bande de Gaza.
À part le actuel gouvernement israélien, on peine à voir qui va soutenir cette décision. Alors, probablement personne publiquement. Néanmoins, on peut faire le pari que la Russie ou la Chine regardent favorablement cette situation, non pas pour les Palestiniens, mais parce que ça leur permettra, le moment venu, de se servir de ce précédent américain à Gaza s'il avait lieu, pour avancer leur solution, l'un à Taïwan, l'autre en Ukraine, une diplomatie de la force, une diplomatie qui se permet les crimes les plus absolus, puisque c'est ça, hein, ce à quoi on a assisté hier. C'est Trump qui reçoit un Premier ministre en exercice poursuivi par la Cour pénale internationale et à qui il dit, devant l'ampleur des dégâts que tu as causés et que l'administration précédente américaine a permis, je suis forcé d'aller plus loin dans le crime et de prendre 2 millions de personnes et de les chasser de chez eux.
Est-ce qu'il faut établir un lien entre le projet de Donald Trump énoncé ces dernières heures et l'ambition américaine, qui est celle de Donald Trump, mais qui était aussi celle de l'administration précédente, de prolonger les accords d'Abraham par une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, ce qui changerait le visage du Moyen-Orient?
C'est au fondement de la doctrine américaine pour le Proche-Orient. Je suis pas certain qu'après le 7 octobre, c'était au cœur de la projection israélienne dans la région. Ça l'est encore moins pour l'Arabie Saoudite qui, à l'été 2024, a publiquement et de façon répétée annoncé son opposition à une normalisation en absence d'un État palestinien. Et ça a été encore rappelé hier par le communiqué saoudien. Cette normalisation, elle a perdu en valeur du point de vue de l'Arabie Saoudite, puisque l'action d'Israël dans la région, tant chez ses adversaires libanais, syriens ou palestiniens, que chez ses alliés jordaniens et égyptiens, menace la stabilité régionale. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est pas une décision à l'emporte-pièce qui a été prise par la couronne l'été dernier d'annoncer qu'il s'opposait à la normalisation dans ces conditions, mais je pense que c'est le déroulé, la traduction d'une nouvelle stratégie qui cherche plutôt à ramener l'Iran à une forme de raison que se rapprocher d'Israël en ce moment.
Envisager une propriété américaine à long terme sur la bande de Gaza, en faire partir la majeure partie des habitants, ce projet énoncé par Donald Trump, est-ce qu'il correspond à la lecture de l'actuel gouvernement israélien de ce qu'il doit être fait demain ?
Quand on regarde le visage de Netanyahou pendant la conférence de presse, on peut penser que lui-même est surpris par l'annonce du président, même si cette annonce, je pense que du côté américain, elle était travaillée. Mais Netanyahou est conscient des risques sécuritaires et politiques que ça fait peser pour la région et se demande peut-être à quoi correspond exactement cette ambition américaine. Est-ce que c'est un déploiement sur le long terme de troupes américaines à Gaza ? Ceci étant dit, ça lui permet deux choses en interne, et ça a été confirmé par Ben-Gvir ce matin.
L'ex-ministre israélien de la Sécurité nationale qui avait démissionné pour protester contre l'accord de cessez-le-feu.
Ce même personnage, ce matin, se disait prêt à revenir au gouvernement, ce qui permettrait à Netanyahou d'avoir une coalition plus large qu'il ne l'avait hier. Et puis, pendant qu'il parlait de Gaza, ils ont aussi parlé de la Cisjordanie. La Cisjordanie est au cœur de la stratégie du gouvernement actuel israélien qui ambitionne son annexion partielle ou totale. Ça s'est vu par la libération de colons violents, par la proposition de loi israélienne sur la possibilité pour les colons d'acheter directement des terres en Cisjordanie. Et Trump a dit à Netanyahou hier soir « Je me donne 4 semaines pour te répondre sur les projets d'annexion que tu m'as présentés ».
Quoi que l'on pense des déclarations de la vision de Donald Trump sur la bande de Gaza, elles remettent au centre la question de la reconstruction et en tout cas de l'ampleur des dégâts provoqués par la guerre et les bombardements israéliens à Gaza.
Il va y avoir un effet, je pense, de tétanie chez un grand nombre d'acteurs devant les déclarations de Trump, mais tétanie aussi parce qu'ils sont incapables de formuler une solution humanitaire, de reconstruction et politique qui ne soit pas la répétition de ce qui est dit et répété depuis une vingtaine d'années à minima pour tenter de relancer un processus de paix qui est complètement mort. Et quand on les entend depuis un mois, on a l'impression que le 7 octobre et les 14 mois de guerre qui ont eu lieu après n'ont pas existé. On reparle de la solution des États, du déploiement de l'autorité, mais sans prendre en compte à la fois la dimension désastreuse de la situation humanitaire de la bande de Gaza, les enjeux de la reconstruction qui sont phénoménaux, et les défis que ça pèse pour une solution politique qui permette à la fois d'assurer la gouvernance de Gaza et puis qui permette de se dégager de l'emprise de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Et en ça, Trump a un coup d'avance parce qu'il met sur la table une proposition. Alors elle est odieuse, elle est conforme à aucune loi internationale, mais il avance quelque chose et devrait forcer les autres partis, pays arabes et européens, à être capables de formuler une contre-proposition et on ne les entend pas.
Xavier Guignard au micro de Nicolas Falaise. Xavier Guignard, chercheur associé au Centre Noria Research et Middle East Council, co-auteur du livre « Comprendre la Palestine » paru aux éditions Les Arènes. Reportage en Allemagne où la campagne électorale se poursuit, dominée pour l'instant par deux grands thèmes imposés par la droite et par l'extrême droite, l'économie et surtout l'immigration. La politique d'accueil de Berlin est régulièrement remise en cause, encore plus depuis une attaque meurtrière commise récemment par un réfugié. D'ailleurs, les autorités ont déjà durci la législation au cours des derniers mois. Elles ont par exemple décidé d'imposer aux demandeurs d'asile une carte de paiement pour tous leurs achats, sans possibilité pour eux de retirer de l'argent liquide. Delphine Nerbollier.
Aux abords du foyer d'accueil pour migrants monté par la Croix-Rouge, pas de magasin, pas de supermarché. Ahmed est kurde, il vit depuis 5 mois dans ce foyer, il est nourri, logé et reçoit une allocation mensuelle sur une carte de paiement de couleur bleue, la carte sociale, c'est son nom.
Aïda. L'État me verse 170 euros par mois. Je peux retirer 50 euros en liquide. Le reste doit être dépensé sur place avec cette carte. Cette carte est valable partout, dans les magasins, les épiceries, dans les bureaux de tabac. C'est pratique. D'une manière générale, cette somme ne suffit pas vraiment, mais il n'y a rien à faire. L'État nous verse cela et nous l'en remercions.
Avec ce projet pilote, cette ville, dirigée par les sociaux-démocrates, avait au départ un objectif, simplifier le travail des fonctionnaires. Mais depuis, le projet a été repris par toutes les autres régions du pays avec un autre objectif, limiter l'argent liquide donné aux demandeurs d'asile et restreindre les envois d'argent vers l'étranger et vers les réseaux de passeurs. Certains contestent cette mesure. Dans un quartier du centre de Hambourg, une dizaine d'activistes accueillent chaque semaine des réfugiés désireux d'avoir davantage d'argent liquide et plus de liberté. C'est le cas de Saleh, un Palestinien venu du Liban.
Avec la carte sociale, nous ne pouvons pas acheter partout où nous voulons. Nous, les Arabes, nous aimons acheter des produits arabes dans des magasins arabes en liquide. Nous ne voulons pas acheter au supermarché.
Au total, sur les 3000 demandeurs d'asile qui reçoivent la carte sociale à Hambourg, environ 300 font appel à ce service. Une vraie réussite pour Utelux, l'une des initiatrices de ce projet.
Cette carte se dit sociale, mais en fait elle agit de manière antisociale. Cette carte n'aide pas à s'intégrer car les gens se sentent discriminés et stigmatisés. Cela leur rend la vie beaucoup plus compliquée. J'y vois une tendance dans toute l'Europe à mener des politiques contre les migrants. Et ce n'est pas seulement le fait de l'extrême droite. Les partis du centre aussi tombent dans cette tendance. On exclut davantage les migrants, on les inclut moins dans la société.
De fait, l'Allemagne n'est pas un cas unique. En France, par exemple, ces cartes de paiement existent depuis 2019 déjà. En Allemagne, l'extrême droite va désormais encore plus loin. Elle demande que les demandeurs d'asile ne reçoivent plus d'allocations financières, mais uniquement des aides en nature. Un pas qui n'est pas encore franchi.
Reportage de Delphine Nerbollier pour Accent d'Europe. L'émission est à retrouver quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio.